Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour au 88.3 CFAQ pour parler, faire un suivi, voilà, dis-je bien, sur les victoires. Cette équipe de hockey féminin qui a finalement un nom et qui ont choisi Victoire. Donc, Sarah, tu voulais faire le topo sur la saison actuelle.
C'est le 30 novembre dernier qu'avait eu lieu le premier match de l'équipe de hockey féminin de la Victoire de Montréal. Un nom quand même assez indicateur des attentes. Mm-hmm. Et pour l'occasion, l'équipe locale accueillait à la Place Belle leur domicile à Laval, l'équipe d'Ottawa, la charge, ou je vais sûrement dire la charge.
La charge, ouais.
Parce que ça dit pas très bien non plus en français. Donc, ce sont plus de 10 000 spectateurs et spectatrices qui étaient au rendez-vous pour le début de la saison, qui promet d'être électrisant. C'est d'abord l'attaquante de l'équipe d'Ottawa, Emily Clark, qui ouvre la marque en trompant la vigilance de la gardienne de but de l'équipe montréalaise, Anne-Renée Desbiens. Clark, l'attaquante originaire de Saskatoon, profite d'un rebond opportun en avant d'un demi-cercle de gardien et inscrit un premier but sans aide. En début de la deuxième période, la jeune attaquante Danielle Serdagny double l'avance pour ses troupes. Serdagny, c'est une jeune attaquante prolifique qui est a aussi une opportunité qui finit par payer. L'ancienne joueuse de l'année de l'Eastern College Athletic Conference au rang universitaire dirige un tir-passe dans l'enclave qui dévie sur le patin de la défenseur de la Victoire, Katie Tobin. Donc, les partisans de la Victoire, qui se faisaient entendre malgré un déficit de 2-0 sur le tableau d'affichage, trouveront aussi un signe d'espoir peu après le but de Serdagny sur la jeune sensation américaine A.B. Boreen qui va d'un tir vif dans la partie supérieure du biscuit ou du bloqueur, comme on dit ici au hockey. La gardienne Emmerance Maschmeyer n'y peut rien. L'écart est réduit qu'à un seul but. Michaela Grant Mantis récolte une mention d'aide sur le but de Boreen. Grant Mantis avait d'ailleurs remporté le prix de la meilleure joueuse en Premier Hockey Federation en 2021. Et va devenir aussi la première joueuse noire à remporter ce titre. En plus d'une saison exceptionnelle en 2021, la joueuse qui porte le numéro 18 avec la Victoire a aussi remporté le titre de la recrue de l'année et a été récompensée pour son travail dans sa communauté en remportant aussi le prix de la fondation décerné pour l'éthique exemplaire en dehors de la patinoire. Le but inscrit par A.B. Boreen, aidé par le travail de Michaela Grant Mantis, va redonner confiance à l'équipe montréalaise. Ça va être au tour de la vétéran Laura Stacy qui décoche un tir puissant sur réception. La gardienne de but n'y peut rien. Emmerance Meschmeyer va connaître un autre but en avantage numérique. Laura Stacy, c'est une double médaille olympique qui a aussi récolté la médaille d'argent lors des Jeux de Pyeongchang en 2018 et l'or en 2022 à Pékin avec l'équipe Canada. Et c'est qui va créer l'égalité, je rappelle, en supériorité numérique. La défenseur Erin Ambrose ainsi que l'attaquante native d'Oakville en Ontario, Christine O'Neill, obtiennent chacune une mention d'aide sur celui qui ramène les deux équipes à la case départ. Si l'ambiance dans la Place Belle devient électrisante et que les encouragements se font entendre de vive voix, c'est peu avant la rentrée au vestiaire que Teresa Vasinova refroidit les ardeurs de la foule. Complètement laissée à elle seule, sa coéquipière Aneta Tejralova tente une longue passe qui efface la défense montréalaise. La gardienne de but encaisse un but sur une séquence qu'elle aimerait probablement revoir. On se retrouve au dernier tiers, à la troisième période. La Victoire est menée par le score de 3-2, mais elle n'a pas dit son dernier mot. L'indiscipline de la charge, l'équipe d'Ottawa, leur coûte cher. Si Vasinova avait provisoirement permis à son équipe de prendre les devants en deuxième période, la joueuse sera punie pour avoir donné de la bande. C'est une pénalité qui va aussi être similaire à une mise en échec illégale où c'est souvent des mises en échec qui vont s'effectuer par derrière. Donc, le jeu de puissance porte encore à ses fruits et ce, avec un but encore inscrit sur un lancer sous réception. La vision de la gardienne Maschmeyer est troublée par les joueuses qui sont campées devant elle. Le tir est trop puissant pour la gardienne qui avait cependant partiellement arrêté la rondelle. Elle ne peut que regarder la lumière de but s'allumer. Jennifer Garner, l'auteur du but célèbre, avec ses coéquipières, la défenseure Kayla Barnes et l'attaquante A.B. Boreen récolte une mention d'aide. Barnes avait d'ailleurs remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, représentant l'équipe des États-Unis. Des Jeux olympiques auxquels sa coéquipière avec la victoire, Laura Stacey, avait dû se contenter de la deuxième place, on le rappelle. Pour Boreen, sa passe sur le but de Jennifer Garner représente un deuxième point inscrit après son but inscrit à la seconde période. Il faudra finalement se rendre en tir de barrage pour que Marie-Philippe Poulin offre la victoire à son équipe. On n'a présent plus, surnommé Captain Clutch, Poulin déjoue la gardienne d'Ottawa et place la rondelle au fond du filet lors de son deuxième tir de barrage, puisqu'on a dû se rendre à cette deuxième séquence de tirs au but. Dans la défaite, la gardienne d'Ottawa récolte tout de même 42 arrêts, soit un sommet personnel pour la meilleure gardienne. Le prochain match de la victoire aura lieu mercredi, soit aujourd'hui, même ce soir, contre le New York Sirens, donc des sirènes, à 19h. Et cette deuxième rencontre sera l'occasion pour l'équipe de Montréal d'enchaîner un deuxième gain, chaque victoire contre dans cette ligue, qui a un calendrier quand même assez réduit, on parle de 30 matchs. Il faut aussi noter que 18 de ces matchs seront en diffusion sur RDS et commentés par une équipe entièrement féminine qui va être menée par Claudine Douville, qui a fait beaucoup aussi de matchs de soccer et Jeux olympiques notamment. Isabelle Leclerc, Andréane Barbeau, Émilie Duquette, Karel Aymard, Stéphanie Poirier et Catherine Savoie seront donc à l'antenne des matchs de la victoire qui affronteront 5 équipes dans le calendrier que je rappelle qui comporte 30 matchs. Et ces autres équipes sont situées aussi en Amérique du Nord, bien surtout à l'est de l'Amérique du Nord. Alors le Boston Fleet, le Minnesota Frost, les New York Sirens, le Ottawa Charge, ainsi que les Sceptres de Toronto, ou les Toronto Sceptres. Et j'ai une question ici, peut-être d'autres équipes à venir dans cette ligue. Bien, il faut être prudent, car le marché du hockey n'est pas le meilleur aux États-Unis, donc, comme on avait déjà parlé lors des derniers mercredis. Juste par exemple, peut-être pas partir une franchise au milieu du désert en Arizona, on rappelle que les Coyotes n'étaient même pas capables de remplir un aréna de 5000 places et qui ont dû se relocaliser en Utah pour cette année.
Ben, de ce que je remarque, non, le Minnesota, techniquement, il est dans Midwest. Techniquement, dans le Midwest.
Ça dépend.
Ben, c'est surtout l'Est qui est représenté, comme tu le dis, puis... Pour le fun, j'ai vérifié, c'est vraiment victoire en anglais aussi, c'est pas victory. Je pensais qu'ils ont. C'est la victoire de Montréal ou de Montreal, victoire en anglais. Fait que probablement qu'ils vont aimer ça justement à New York et au Minnesota.
Prononcer,
victoire.
C'est... Mais, le victoire, c'est clean.
Mais non, c'est ça, moi, c'est mon erreur. Je pensais que justement, il y avait eu des matchs. Beaucoup plus que ça avant ça, mais non, la saison vient de commencer techniquement pour les matchs féminins, mais c'est quand même deux victoires pour les victoires, donc ça n'a pas été réfléchi pour vrai. Je comprends l'idée, mais tu sais, c'est ça, la défaite pour la victoire ou deux victoires pour les victoires, je sais pas, c'est un drôle de choix, mais ça fonctionne quand même malgré tout, puis là, les chandails sont beaux. Tu sais, la première saison, c'était juste... Montréal, New York, Ottawa. T'sais, c'était juste le nom des villes, comme à une autre époque peut-être que le hockey a déjà été. Mais non, les logos sont quand même pas pires. Donc voilà pour ça. Début de saison, voilà, qui est enfin entamé, diront certains. Et ça se poursuit jusqu'en mars, si j'ai bien vu, pour la fin de la saison. Les derniers matchs, ou plutôt la coupe. Ouais, ça va même jusqu'en mai. Fait que... Calendrier réduit, mais pas tant que ça. Non. Ben, oui, parce qu'on commence fin novembre, début décembre, jusqu'en mai. Donc voilà pour ça, comme tu l'as dit, les matchs sont entre autres décrits sur RDS pour les matchs de Montréal, à tout le moins. Sinon, CBC, Amazon Prime et TSN sont parmi les diffuseurs anglais.
Et si on peut dire que de façon générale, bien ça confirme ici une montée... en popularité du sport féminin.
Ah, complètement, parce que ça joue à guichet fermé. Là. La plupart des matchs, surtout Montréal, c'est à guichet fermé parce que, notamment, c'est accessible. Ça ne coûte pas des centaines de dollars pour voir une équipe perdre. Dans ce cas-ci, ce sont deux victoires en deux. Fait que ça va très bien pour eux. Donc, non, tu as raison, il y a un véritable engouement pour le hockey féminin dans ce cas-ci. On s'arrête là-dessus. Au retour, la deuxième heure de ce 9 sur les ondes de CFAQ 88.3. 10h03 sur les ondes de CFAQ 88.3, début de cette deuxième heure du 9. Sarin, tu avais un petit complément de chronique en rapport avec les victoires de Montréal, la victoire de Montréal.
C'était surtout pour ajouter sur la montée en popularité du sport féminin aussi. Ça s'est pas fait juste au hockey, mais ça se fait aussi par gradation un peu, j'ai l'impression, parce qu'au début de la session, j'avais parlé de la WNBA, mais aussi d'autres sports ici comme le tennis féminin qui prend encore plus d'effervescence. Donc les joueurs s'est rendu qu'ils ont des bourses similaires ou égales même aux hommes, étant donné qu'ils vont être aussi regardés de la même façon. Et on peut penser notamment des stars ou des joueurs ici canadiennes qui ont mis davantage aussi les radars sur elles. On peut penser à la jeune Leila Fernandez ou Bianca Andreescu au Canada qui ont su redonner une bonne image au tennis féminin, puisque c'est vrai qu'on avait eu des bons joueurs aussi au masculin, mais ça s'était pas souvent ou moins transcendé à l'égard du tennis féminin. Et il va y avoir aussi d'autres bonnes joueuses qui vont prendre la relève aujourd'hui, comme Iga Świątek, qui est la Polonaise qui occupe le premier rang de la WTA. Et aussi, le tennis féminin aujourd'hui, ça va être un sport qui permet d'atteindre des talents en dehors aussi des pays occidentaux. Comme on peut penser notamment à la joueuse qui vient du Kazakhstan, Elena Rybakina, elle aussi qui est âgée dans la début vingtaine, qui occupe le quatrième rang. Donc ça permet aussi d'élargir les horizons et d'aller chercher des joueuses qui vont venir de d'autres pays pour un sport. On rappelle, le tennis féminin, ça a été longtemps dominé par les sœurs Williams.
C'est vrai.
Donc, entre Serena et Venus. Notamment, Serena, elle a gagné 23 titres de Grand Chelem. Elle a gagné aussi quand même 13 titres en simple sur surface dure, qui est un record. Et aussi avoir 7 titres à l'Open d'Australie, qui est aussi un record. Et on peut ajouter aussi à ses difficultés qu'a surmonté Williams. Elle a joué aussi après avoir accouché. Donc, puis il faut aussi souligner qu'au tennis, c'est un sport extrêmement physique, extrêmement demandant. Il faut tout le temps être à son meilleur. Un match, on peut jouer pendant 2-3 heures à pleine intensité. Le lendemain, on rejoue un match. Après ça, on est à Montréal. Après ça, on se réveille à Cincinnati. Après ça, on se réveille à Flushing Meadows à New York. Après ça, on va être déplacé en Australie. Donc, la constance pour ça, ça a vraiment été la meilleure chez les femmes. Mais là, on a un renouvellement de cette génération, mais qui se retrouve ici, non seulement juste aux États-Unis, mais au Canada et dans d'autres pays. Et pour la WNBA, j'en avais parlé lors de la chronique que j'ai faite sur Caitlin Clark, qui était la star, l'étoile montante du Indiana Fever. Elle aussi qui était originaire d'Iowa, donc c'est pas trop loin non plus de l'Indiana, et qui a su profiter de l'effet de marque aussi, puisque le propriétaire des Pacers, l'équipe masculine, c'est aussi le propriétaire de l'Indiana, donc il a réussi à faire un bon branding, désolé pour l'anglicisme encore, pour l'entourer. Et l'image aussi de marque de la WNBA est aussi plus forte que la ligue de hockey féminine en ce moment, étant donné que j'avais mentionné aussi que pour l'équipe de... En fait, pour la ligue de hockey, c'était 6 équipes, dont une située à peu près au Midwest, mais qui est l'équipe du Minnesota. Mais pour ce qui a trait des équipes de basketball, on en a autant sur la côte Est qu'Ouest. Donc, il va y avoir une équipe à Atlanta, Dallas, Los Angeles, Phoenix, Chicago, à l'Indiana aussi, au Minnesota, à Seattle, au Connecticut, à Las Vegas, à New York, ainsi qu'à Washington. Donc, ça prend de l'effervescence, et c'est aussi un mouvement qui va donner... espoir aussi pour les jeunes joueuses qui vont se reconnaître, parce que avant, vous jouez, mettons, basketball collégial. Ouais. Après ça, c'est quoi la...
Il n'y a plus rien. Même chose pour le hockey, c'était ça. C'était universitaire, puis that's it après ça. Là, oui.
Puis pour faire un retour ici, un parallèle au hockey, bien c'est la ligue justement de hockey féminine qui prend son expansion. Mm-hmm. Il y a une ligue professionnelle qui existe depuis quelques années, mais elle a dû changer de nom cette année pour le nom actuel. ça fait seulement un an, mais avant ça, les seules opportunités pour un partisan de hockey ou de sport en général, ou de hockey féminin en particulier, c'était les voir aux Jeux olympiques. Là, on faisait « Ah, vraiment bonne Marie-Philippe Poulin, mais je la vois tous les quatre ans sur mon écran. » Ouais. Donc, ça donne aussi davantage d'une visibilité pour renouveler ces joueurs aussi, renouveler les générations futures, autant au hockey, au tennis et au basketball, comme j'avais un peu mentionné.
Mais c'est ça, la demande est là. C'est sûr que c'est pas comme le pendant masculin. Là. C'est sûr qu'on remplit peut-être pas des stades à craquer comme le football, par exemple, qui est vraiment le sport des Américains. Que peu importe les chicanes, les stades seront pleins au minimum de football. Mais comme tu le dis, c'est ça, il y a un essor. Puis en plus. Les performances sont là. Il y a vraiment des bons matchs en tennis, notamment, qui sont joués. Tu sais, les Jeux olympiques ont montré plusieurs bons joueurs de partout performer. Puis c'était pas tout il y avait pas que des numéros 1 de raquettes non plus. Tu sais, c'était quand même assez varié, mais tant mieux si le monde s'y intéresse. Là. Oui, tout à fait. Excellent pour ça. Rapidement, avant d'aller à la petite pause musicale, on a beaucoup parlé dans les dernières semaines de quand on répond au téléphone et que ça raccroche automatiquement, c'est parce qu'on enregistre notre voix et que semble-t-il que si on dit « oui, allô » en répondant, ben c'est suffisant pour frauder les gens parce qu'on enregistre ce « oui-là » en tant que tel. On appelle au calme. On appelle que c'est pas automatique de même. Parce que oui, des fois, quand on fait des services par téléphone, on peut répondre oui avec la voix. Mais c'est pas suffisant pour partir avec des bandes et extrapoler la voix et commencer à inventer des paroles en parlant avec des conseillers financiers, par exemple. Ça prend un petit peu plus que juste « oui, allô » pour déjouer les systèmes de reconnaissance vocale des grandes banques, assurent plusieurs experts en cybersécurité. Il vaut mieux appliquer un ensemble de conseils de base pour sécuriser ses comptes, même si les grandes banques devraient mieux protéger leurs clients victimes de fraude, selon ces mêmes experts. Fait que oui, tu peux mettre ton empreinte digitale sur ton application de banque. Oui, tu peux mettre la double vérification qui envoie un message texte à ton cellulaire, mais mettons que tu te fais dérober justement ce même téléphone-là, on enlève le mot de passe, on y a accès, puis ça devient un peu plus facile. Là, t'sais. Fait que si on trouve le mot de passe principal, ben, encore une fois, diversifiez vos mots de passe parce que c'est le même pour tous. C'est encore plus facile de vider un compte ou ne serait-ce que d'aller trouver des informations bancaires. On est des millions de Québécois à répondre ça au téléphone. Si l'on dit qu'il faut collectivement changer notre façon de parler parce que ça ouvre les portes aux fraudeurs, je pense qu'on s'attaque au mauvais problème, estime le responsable de l'équipe de recherche sur les cybermenaces ciblées chez Proofpoint, Alexis Doré-Jonca. D'ailleurs, il ne compte pas arrêter lui-même de dire oui, allô. Les préoccupations qu'on doit avoir quand on répond au téléphone, c'est qu'on peut être en train de parler à des fraudeurs. Une fois qu'ils réussissent à entrer en communication avec nous, ils vont essayer de nous manipuler, de nous stresser et de nous maintenir dans un état d'anxiété qui leur permet de plus facilement nous frauder. Notamment le film c'est-tu l'apiculteur Beekeeper avec Jason Statham qui est sorti cet été, c'était ça la prémisse de base, c'était une gentille dame qui répond au téléphone et qu'on lui dit vous êtes allé sur un mauvais site madame, pouvez-vous nous donner vos numéros de carte bancaire? Oui, voici le numéro. Et pendant ce temps-là, elle se fait vider son compte de fondation et elle perd des millions de dollars. Donc ça va rapidement. Et justement, pour des personnes un peu plus âgées, peut-être, qui vont mordre peut-être un peu plus facilement à l'hameçon, ben ça va être ça. Ils vont recevoir un pop-up sur leur ordi qui dit « Vous êtes en train d'être victime d'une attaque de virus. Appelez-nous pour que Microsoft règle votre problème. » Évidemment que non. Microsoft n'a pas de service de surveillance. Mais pour nous, c'est évident. Mais quelqu'un qui va être plus âgé, quelqu'un qui va être plus vieux, qui se fait envoyer un gros pop-up qui flash sur son écran, vous êtes en train d'être piraté, appelez-nous pour pas vous faire pirater. C'est sûr qu'il y en a qui, malheureusement, mordent à l'hameçon. Puis il y a beaucoup de vidéos aussi sur YouTube. Il y a un gars, notamment, qui fait semblant d'être des vieilles personnes et qui, pendant qu'il discute avec ces centres de fraude-là qui sont souvent en Inde, il fait semblant de ne pas comprendre, de ne pas rentrer les informations aux bons endroits pour que l'appel dure et qu'en background, eux-mêmes sont en train de pirater les ordis indiens, en train de faire comme « Ouais, est-ce que ton nom c'est un tel? Ouais, puis tu travailles dans tel bâtiment puis telle place. » Puis évidemment, eux autres, ça les met en maudit, fait qu'ils commencent à l'insulter en langue hindoue, mais... Ironiquement, lui-même a appris quelques petites insultes pour leur répondre du tac au tac. Mais voilà, donc, des fois, ça réussit à faire fermer ces centres d'appel-là, mais trop souvent, c'est soit toléré ou les autorités ont comme pas de pouvoir, fait que ça fait juste comme, ouais, il y a cette bâtisse-là qui abrite comme des centaines de personnes qui appellent pour frauder un peu partout en Europe, en Amérique. OK, on va en prendre note, puis ça s'arrête là. Fait, un peu à deux vitesses, mais voilà, ça devient extrêmement facilement, surtout quand c'est délocalisé comme ça. Fait que des fois, c'est ça, ces centres d'appel-là, qui sont soit en Inde ou qui sont ailleurs ou que c'est moins réglementé, ben tout se fait par Internet aujourd'hui. Fait que des faux appels et c'est réglé. Donc, à faire attention. Mais oui, allô, techniquement, n'est pas la seule raison pourquoi vous allez vous faire frauder. Quoique, évidemment, de plus en plus, les appels par langue, pas par langue, mais par voix générée et tout ça, ça peut devenir à long terme un réel problème.
J'allais juste dire rapidement, Alex, parce que ça m'a quand même vraiment fait rire, parce que je suis pas une personne qui répond très rapidement au téléphone de façon générale, parce que souvent, c'est Emma Québec qui me rappelle que je dois... prendre un rendez-vous, comme quand il y a des périodes de dons, je me fais appeler trois fois par jour, cinq fois par semaine. Une seconde chose aussi, c'est aussi je travaille sur appel, donc des fois, j'ai pas les numéros enregistrés de mes patrons, des succursales où est-ce que je travaille, donc ben, faut si faire... je réponds oui, allô,
je
perds tout mon argent.
Mais non, mais faut faire attention, c'est pas aussi extrême, faut faire attention, mais justement, si... on a l'afficheur ou si on peut voir le numéro qui nous appelle. Évidemment, si c'est un numéro qui vient des États-Unis, qui vient de l'Europe et que c'est clairement écrit Munich en dessous de l'appel, évidemment, on ne répond pas à ces appels-là. Quitte à les laisser sonner, mais évidemment, si on répond, ben là, ça devient un peu problématique. Donc, si vous avez l'afficheur sur vos téléphones, profitez-en, évidemment. Mais sinon... quand vous répondez des fois à des appels, justement, et que ça raccroche tout de suite, c'est juste que ça confirme que votre numéro va répondre. Et que peut-être plus tard, vous allez recevoir d'autres appels. Donc, certaines techniques sont employées. On fait une courte pause ici sur les ondes de CFAQ et on revient avec une autre entrevue ici dans le 9 au 88.3 à Sherbrooke.